This is Radio France International.
De Paris, RFI,
$100.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde, l'actualité vue par les rédactions en langues étrangères de RFI, votre radio, dans toute sa richesse et toute sa diversité. Ce soir, c'est avec Thé Hung Pham de la rédaction vietnamienne.
Xin chào.
À propos de la guerre en Ukraine, qui met le Vietnam dans une position délicate dans ses relations avec les États-Unis et la Chine. Pour la rédaction portugaise, Karina Branco.
Hola.
Pour nous parler d'un documentaire sur ce qui s'est passé le 27 mai 1977 et les deux années de répression qui ont suivi en Angola. Lucia Mouzel, de la rédaction brésilienne.
Bonne nuit.
Qui nous dira que la semaine prochaine, cela en sera fini du masque anti-Covid dans bon nombre de pays, dont la France. Bonsoir à vous tous. Ce qui fait la une de l'actualité, c'est également la mort, l'assassinat, accusent certains, de Shirin Abouaklé, cette journaliste dont l'enterrement a eu lieu tout à l'heure, cet après-midi, ce qui a donné lieu à des incidents à Jérusalem-Est, dans le secteur palestinien de la ville occupée et annexée par Israël. C'était lorsque le cercueil est sorti de l'hôpital. Des milliers de personnes, de Palestiniens, sont venus dire adieu à la journaliste vedette de la chaîne Al Jazeera, tuée d'une balle dans la tête en Cisjordanie occupée, où elle couvrait un raid militaire israélien. C'était avant-hier. L'autorité palestinienne, Al Jazeera et le gouvernement du Qatar accusent l'armée israélienne de l'avoir tuée. Israël, après avoir dit qu'elle avait probablement succombé à un tir palestinien, affirme finalement ne pas écarter que la balle ait été tirée par un de ses soldats. Une enquête dira les choses. En l'hommage de cette journaliste américo-palestinienne de 51 ans, faisons le point. On le voit, Lucia Mouzel, les versions divergent.
En effet, car les uns accusent les autres d'être les responsables du tir qui a tué Shirin Abouaklé d'une balle dans la tête alors qu'elle portait un gilet pare-balles dans lequel on pouvait clairement lire « presse ». Les vidéos publiées sur Internet à la suite de sa mort ne font qu'augmenter les questions autour de ce meurtre. Dans une, on voit des Palestiniens essayer de lui porter secours, son corps par terre, immobile, tandis que des tirs supposément de snipers israéliens sont encore entendus au fond. Dans une autre image publiée par le gouvernement israélien, on voit des militants palestiniens tout agités dire qu'ils auraient touché quelqu'un et que c'est peut-être un soldat israélien qui est par terre. Et donc, selon Tel Aviv, ce serait en fait la journaliste d'Al Jazeera, cette cible. Sauf qu'après, une organisation est allée exactement à cet endroit et a montré avec des images que ces militants n'étaient en réalité pas proches de l'endroit où la célèbre reporter a été tuée.
Oui, ça suscite beaucoup d'émotions. D'ailleurs, Shirin Abouaklé était surnommée la voix de la Palestine, d'où l'émotion que cela suscite, Karina.
Tout à fait. C'est bien la mort d'un symbole dont il s'agit, car Shirin Abouaklé était bien plus qu'un des visages les plus connus de la chaîne Al Jazeera. Grâce à son travail de journaliste, elle était devenue une icône de la résistance palestinienne et un symbole de liberté dans un territoire occupé. Le journal portugais Público rappelle qu'elle est une référence dans le monde arabe, qu'elle a couvert tous les événements importants dans les territoires palestiniens et en Israël. Et nous avons parlé avec une chercheuse en études palestiniennes féministes, Shad Wadi, elle-même palestinienne et habitant au Portugal. Pour elle, c'est une voix qu'on a tue, une voix qu'on a donc tue et tuée. Écoutons-la.
Comment est-ce possible que une personne que je n'ai jamais connue dans la vie, que je voyais avec beaucoup de fréquence, mais que je n'ai jamais connue, chaque fois que je tente à dormir, apparaît.
Que dit Shad Wadi?
Elle raconte qu'elle n'a pas dormi la nuit de mercredi à jeudi en passant à la mort de Shirin Abouaklé. Et elle se demande comment ça se fait alors qu'elle ne l'a jamais connue personnellement. Mais c'était un visage familier pour elle et pour tous les Palestiniens. Alors elle dit que ça a été vraiment troublant pour elle et pour tous les Palestiniens qu'elle connaît. Et elle dit ne pas avoir de doute que la journaliste ait été assassinée par les forces israéliennes. La chercheuse ajoute qu'il y a toujours un pouvoir qui essaye de faire taire les voix qui font un bon travail, que ce soit des journalistes ou des chercheurs, et qu'on a fait taire la voix de Shirin Abouaklé dans un meurtre. La chercheuse palestinienne dit aussi que n'importe quel journaliste en Palestine est un symbole de résistance, parce qu'être journaliste dans un territoire occupé, c'est devait risquer sa vie tous les jours.
Et voilà, une quinzaine de jours, la Cour pénale internationale avait reçu une plainte de plusieurs organisations de journalistes, notamment des journalistes palestiniens, dans laquelle, Lucia Mouzel, ils accusaient Israël d'attaquer sans hésitation ses reporters dans les territoires palestiniens.
Oui, c'est ça. Cette plainte a été reçue le 25 avril, selon la Cour, et elle signale que ces attaques peuvent constituer des crimes de guerre. Les cas de quatre journalistes morts ou grièvement blessés lorsqu'ils couvraient des manifestations à Gaza sont rapportés. Les auteurs de cette plainte accusaient encore Israël de négliger l'enquête des meurtres des journalistes palestiniens. La mort de la journaliste d'Al Jazeera met donc en lumière des abus qui semblent être courants contre des journalistes, mais aussi contre les Palestiniens en général. C'est en tout cas ce que rappelle un communiqué de l'organisation Amnesty International, publié quelques minutes après l'annonce de la mort de la journaliste.
Alors précisément, que dit ce texte? Qu'est-ce qu'on peut y lire?
Le communiqué signé Saleh Higazi, directeur adjoint d'Amnesty International pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, est très critique à Israël, dit que le meurtre de la journaliste est un rappel sanglant du système meurtrier dans lequel Israël enferme les Palestiniens, je cite. Israël tue des Palestiniens de gauche et de droite en toute impunité, peut-on lire sur ces textes. Le communiqué appelle à mettre fin aux homicides illégaux, aux blessures volontaires, aux arrestations arbitraires, à la torture et autres mauvais traitements, aux persécutions, aux châtiments collectifs contre les Palestiniens, y compris de nombreux enfants. L'organisation internationale signale que la violence s'est intensifié depuis que le premier ministre israélien Naftali Bennett a pris ses fonctions en juin 2021. Et les mois de mars et avril étant ceux où le plus grand nombre de Palestiniens et d'Israéliens ont été tués depuis 2008 en dehors des hostilités armées entre Israël et dans les territoires palestiniens occupés.
Oui, et plus largement, la mort de Shirin Abu Akleh nous rappelle, Théon Pham, que le métier de journaliste, c'est un métier dangereux.
Oui, malheureusement, c'est un métier dangereux partout dans le monde parce que depuis 2018, l'organisation Reporters sans frontières a recensé plus de 140 journalistes victimes de violations de la part de forces de l'ordre israéliennes et depuis 2000, au moins 30 journalistes assassinés. Et depuis le début de l'offensive russe en Ukraine, on a vu beaucoup d'attaques visant les professionnels des médias portant en presse à presse et de plus en plus de journalistes morts ou blessés dans l'exercice de leur métier en Ukraine. Même dans les pays en paix, comme au Mexique ou au Chili, les journalistes sont fréquemment victimes de violences, comme la jeune journaliste décédée hier au Chili, après avoir été touchée à la tête par une balle.
On va en parler justement avec vous, Lucia Mouzel. L'une de ces victimes, c'était donc hier, une jeune reporter au Chili.
Oui, Francisca Sandoval, 30 ans, elle a reçu une balle dans la tête lorsqu'elle couvrait les manifestations du 1er mai à Santiago, au Chili. Les suspects, ce sont des membres d'une bande de commerçants clandestins qui étaient présents sur place et étaient gênés par cette manifestation. Sa mort a provoqué une vive émotion dans le pays et dans l'Amérique latine. Au total, dans le monde, 28 journalistes avaient perdu la vie cette année avant Shirin Abu Akleh et Francisca Sandoval, selon ce bilan provisoire de l'Institut international de la presse établi à Vienne et l'ONG Reporters sans frontières.
Alors justement, RSF qui nous dit que 26 journalistes et 2 collaborateurs des médias ont été tués dans le monde depuis le début de l'année et que l'Asie-Pacifique est en tête de ce macabre hit parade, de ce massacre bilan, avec 20 assassinats de journalistes, dont 9 en Afghanistan. Théon Pham, dans certains pays, des journalistes ne sont pas en danger de mort, comme on vient de le décrire, mais sont fortement réprimés. C'est le cas au Vietnam.
Voilà, donc au Vietnam, la presse est contrôlée étroitement par le Parti communiste, le parti unique. Et les journalistes indépendants et les blogueurs sont régulièrement emprisonnés, faisant le Vietnam la troisième prison au monde pour les journalistes. Les blogueurs et les journalistes indépendants sont les seules sources d'informations libres dans ce pays, et surtout sur Facebook, la plateforme en ligne la plus populaire du pays, avec 64 millions d'utilisateurs. Mais le régime utilise une série de lois sur mesure pour emprisonner les journalistes indépendants avec de lourdes peines de prison jusqu'à 20 ans. Une quarantaine de journalistes sont actuellement en prison au Vietnam, dans les prisons où les cas de mauvais traitements sont très fréquents. Même les journalistes de la presse officielle ne sont pas épargnés de la répression. Depuis avril, la justice vietnamienne a condamné un journaliste à 3 ans de prison pour avoir mis au jour une affaire de corruption. Et 3 jours plus tard, elle a envoyé une autre journaliste en camp de rééducation.
En camp de rééducation, ça existe encore au Vietnam, ça ?
Ça existe encore.
Lucia, la liberté de la presse, c'est donc un sujet délicat dans bon nombre de pays au monde. Cette semaine encore, 9 organisations de presse brésiliennes ont donné l'alerte sur le risque des prochaines élections générales au Brésil. Risque pour les journalistes, justement.
Oui, dans un communiqué commun, ces organisations affirment que les présidentielles et les législatives auront lieu dans un moment particulièrement dangereux pour l'exercice du journalisme au Brésil, où les attaques virtuelles, mais aussi physiques, sont de plus en plus courants. Très souvent, d'ailleurs, elles sont liées. Hein. Des milices virtuelles, comme on les appelle au Brésil au moins, prennent un journaliste pour cible, pour un commentaire sur les réseaux sociaux, et cela dégringole rapidement vers des menaces de mort, des persécutions en vrai, des agressions. Cette situation risque de s'empirer à la campagne électorale que l'anticipe très polarisée entre les partisans du président Jair Bolsonaro, en quête de réélection, et l'ancien président Lula, son opposant aux urnes au mois d'octobre.
On le voit, la liberté de la presse a maille à partir quotidiennement et parfois on en parle un peu plus. C'est le cas avec la mort de Shirin Abu Akleh. J'ajoute que le portrait de la journaliste, qui est la 7e tuée dans les territoires palestiniens depuis 2018, a été brandi lors de rassemblements, on l'a vu en Jérusalem-Est, mais également en Turquie, au Soudan, au Liban, et son portrait a été projeté sur un immeuble de Doha, la capitale du Qatar. Vous écoutez Accent du Monde sur Radio France Internationale.
Accent du Monde. Philippe Le Caplain.
Et la rédaction vietnamienne de RFI qui veut nous parler ce soir, dans Accent du Monde, de la guerre en Ukraine. En effet, ce conflit met le Vietnam en position délicate dans ses relations que le pays entretient avec les États-Unis et la Chine. Thé Hung Pham, jusqu'à présent, le Vietnam est resté neutre dans cette guerre, ne soutenant ni ne condamnant l'invasion russe, mais les relations étroites entre Hanoï et Moscou, surtout d'un point de vue militaire, mettent le pays dans une position délicate. Et c'est vrai également vis-à-vis des États-Unis.
Oui, c'est ça, parce que comme beaucoup de pays asiatiques, le Vietnam, qui a des bonnes relations à la fois avec la Russie et l'Ukraine, a essayé de maintenir une attitude prudente, relativement neutre. Mais en tant qu'allié le plus proche de la Russie en Asie du Sud-Est, le Vietnam s'est abstenu de voter sur une résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies condamnant Moscou pour sa agression contre l'Ukraine. Le mois dernier, le Vietnam était également l'un des 24 pays qui ont voté contre la résolution de l'Assemblée générale visant à retirer la Russie du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies.
Donc, soutien à la Russie, pour quelles raisons ?
Parce que le Vietnam est très dépendant des armes russes. Depuis 2000, près de 80% de l'équipement militaire du Vietnam a été fourni par la Russie.
Ça représente 11 milliards de dollars. Hein.
Voilà, c'est ça.
C'est pas rien. Hein.
Le Vietnam est le 5e plus grand importateur d'armes russes au monde et le premier en Asie du Sud-Est. En plus, Hanoï maintient des liens militaires très étroits avec Moscou. En pleine guerre en Ukraine, l'agent de presse russe Ria Novosti a rapporté le 19 avril dernier que les deux pays avaient tenu une réunion en ligne pour discuter des plans pour mener des exercices militaires conjoints intitulés l'Alliance Continentale 2022. Donc la presse officielle vietnamienne n'a pas mentionné cette rencontre et jusqu'à présent Hanoï n'a ni confirmé ni démenti cette information. Mais si c'était le cas, les exercices conjoints Vietnam-Russie pourraient affecter les relations entre le Vietnam et les États-Unis parce que ces relations se sont considérablement accélérées ces dernières années face à l'expansion de la Chine en mer de Chine du Sud.
Oui, les relations se sont nettement améliorées, mais il y a aujourd'hui donc la guerre en Ukraine, le soutien des Vietnamiens. Est-ce qu'il y a un risque que le Vietnam soit sanctionné par les États-Unis ?
Oui, il y a un risque parce qu'il faut savoir qu'en 2017, le Congrès américain a adopté une loi qui prévoit des sanctions contre les pays qui achètent des armes russes. Donc à ce jour, les États-Unis n'ont appliqué cette loi qu'à la Chine et la Turquie, lorsque ces deux pays ont acheté le système de missiles sol-air S-400 à la Russie.
Alors la relation militaire entre le Vietnam et la Russie met également l'administration Biden dans une position délicate. Pourquoi ?
Oui, parce que cette administration poursuit deux objectifs un peu opposés. Il veut punir les pays qui achètent des armes russes, mais en même temps, les États-Unis souhaitent que le Vietnam devienne un partenaire stratégique dans la région Indo-Pacifique. Maintenant, l'invasion de l'Ukraine par la Russie a changé la donne, surtout que depuis Moscou et Hanoï, on discutait de plans d'exercice militaire conjoint. Donc, cet exercice conjoint pourrait affecter le plan des États-Unis pour faire le Vietnam un partenaire stratégique dans la région Indo-Pacifique.
Alors, est-ce que ça veut dire que, du coup, les États-Unis renonceraient à sanctionner le Vietnam pour son achat d'armes russes, comme vous le disiez ?
Parce que les intérêts de Washington n'ont pas vraiment changé depuis la guerre en Ukraine. Et puis, plus la guerre durait, plus elle faisait craindre
plus la guerre en Ukraine.
La possibilité que la Chine profite de cette occasion pour attaquer et envahir Taïwan. C'est pour ça que les États-Unis doivent plus que jamais entretenir des bonnes relations avec le Vietnam. Le Vietnam est un partenaire important et Washington est prêt à laisser ses partenaires utiliser les armes russes s'ils s'en servent contre les ennemis communs. Dans ce cas du Vietnam, cet ennemi, c'est la Chine. Voilà.
Oui, donc on voit pleinement là les alliances, la géopolitique, le cynisme diplomatique dans certains cas. En tout cas, on a bien compris que les États-Unis ne veulent pas que Taïwan soit le prochain sur la liste. C'est-à-dire que Taïwan devienne l'Ukraine de la Chine. Voilà. Et donc, il faut se ménager les susceptibilités des Vietnamiens. Beaucoup disent également, Tae Ung-Pham, que les États-Unis ferment les yeux sur l'achat d'armes des Russes par le Vietnam pour d'autres raisons. Lesquelles ?
Parce que d'abord, ils comprennent que le renforcement du potentiel militaire du Vietnam est essentiel pour contrer l'expansion de la Chine dans la région d'Asie-Pacifique. Et si le Vietnam achète les armes à la Russie, donc il n'achètera pas des armes à la Chine. Deuxièmement, les États-Unis constate qu'avec la capacité économique actuelle, le Vietnam ne peut pas acheter les armes trop chères à des entreprises occidentales. Donc, et Washington comprend aussi que Hanoï a une politique de ne pas trop se pencher vers une puissance mondiale. Si le Vietnam achète des armes aux États-Unis ou à un allié comme la France, la Chine pourrait considérer que le Vietnam est déjà à côté des alliés occidentaux, donc ils vont faire plus de pression sur le Vietnam.
C'était Tae Ung-Pham de la rédaction vietnamienne de Radio France Internationale. Carélia Wanko, vous avez choisi, vous, de nous parler d'un documentaire. Il vient de sortir au cinéma au Portugal et il montre les plaies encore ouvertes en Angola. Il s'agit d'un film sur une des victimes du 27 mai 1977, donc en Angola. Avant tout, rappelez-nous ce qu'est cette date. Qu'est-ce qu'il s'est passé ce jour-là ?
Alors, Philippe, le 27 mai 1977 et les 2 ans de répression qui ont suivi sont une des pages les plus sombres de l'histoire de l'Angola indépendante. Cette date a souvent été résumée comme le début d'une purge au sein du parti au pouvoir, le MPLA. Entre 30 000 et 80 000 personnes ont été arrêtées, torturées, fusillées, sans jugement préalable, suite à ce que le gouvernement a appelé comme tentative de coup d'État, la version non officielle parle, elle, de manifestation populaire pour un changement idéologique au sein du parti au pouvoir et en soutien à Nito Alves, ancien ministre de l'Intérieur, qui venait d'être expulsé du parti, justement pour critiquer sa direction.
Alors, Margarida Cardoso est la réalisatrice de ce film, de ce documentaire, et vous vous êtes entretenue avec elle.
Tout à fait. Elle m'a parlé même du plus grand nettoyage idéologique en Afrique. Et j'ai choisi ce film car dans deux semaines, on commémore les 45 ans du 27 mai 1977. Et aussi parce que cette année, Angola fête 20 ans de paix, mais il y a des plaies encore bien ouvertes. Le film a eu sa première au Festival international de cinéma de Lisbonne, Indie Lisboa, et il est sorti en salle hier, ce jeudi. Le documentaire s'appelle Cita, a vida e o tempo de Cita Walsh, donc Cita, la vie et le temps de Cita Valles. Cita Walsh est une héroïne tragique, née en Angola. Elle est partie au Portugal pour faire des études en médecine et c'est là qu'elle commence sa lutte clandestine contre la dictature, le colonialisme. Après la chute de la dictature, elle retourne en Angola où elle rejoint l'aile la plus à gauche du MPLA, le parti au pouvoir, et devient une des victimes les plus connues du 27 mai. Et la réalisatrice nous a expliqué pourquoi.
No fundo, de todas estas vítimas dos acontecimentos de 27 de maio, a Cita foi a pessoa que acabou por ter mais projeção.
Aidez-nous à comprendre, Karina.
Alors, elle considère d'abord que Cita a été une des victimes les plus connues parce qu'elle était d'abord une femme. Et dans tous les avis de recherche des soi-disant meneurs du supposé coup d'État du 27 mai 1977, elle y apparaît et elle est l'unique femme. Elle était considérée comme une figure presque diabolique. En plus, Cita Walsh n'a jamais été considérée comme angolaise, même si elle est née en Angola. Donc, elle était considérée comme l'étrangère qui se mêlait un peu des affaires intérieures. Donc en résumé, la réalisatrice raconte que ce fut une héroïne tragique, morte à 25 ans, probablement enceinte à nouveau quand elle a disparu, qui a laissé un bébé de quelques mois et qui symbolise le drame de toute une génération.
Donc il en est question aujourd'hui, mais pendant longtemps, ce sujet était tabou en Angola. Hein.
Oui, le 27 mai 1977 et les deux ans de répression qui ont suivi ont été sous silence pendant longtemps. Il a fallu attendre l'année dernière, soit 44 ans, pour que pour la première fois, le président du parti MPLA et aussi le président du pays demandent pardon et des excuses publiques aux victimes et aux familiers, évidemment. Il y a un programme de réconciliation nationale en cours. Des recherches de fosses communes pour trouver les dépouilles des victimes sont aussi en cours pour que les familles puissent enfin tenter de faire le deuil de ces disparus. Mais le film finit avec ce plan d'un mur où il est écrit « La lutte continue ». Et ça m'a questionnée et j'ai demandé à la réalisatrice pourquoi.
La lutte continue, et pour moi, no film, aquele último plano onde está escrito na parede essa frase.
Quelles sont les explications de Margarida Cardoso?
Alors, elle dit qu'elle choisit ce plan parce qu'il a un sens. C'est une lutte pour découvrir la vérité, pour tenter la réconciliation d'un peuple. Mais pour elle, les excuses du président angolais ne suffisent pas pour aboutir à cette réconciliation. Elle ajoute les mots d'une victime qui est filmée dans le documentaire et qui dit que peut-être on ne pourra jamais arriver à une réconciliation car c'est un peu comme la guerre civile en Espagne. Pour la réalisatrice, on peut faire beaucoup de choses. Mais le pardon et la réconciliation seront difficiles. Enfin.
Et puis l'année dernière, Karina, vous êtes allée à la rencontre de gens touchés par ce drame.
Hein. Tout à fait, Philippe. Je suis allée parler avec des survivants et des familiers de victimes du 27 mai. Les témoignages, comme dans ce film, étaient poignants, révoltants. Mais dans tous les témoignages, j'entendais toujours le même mot. Vérité. Sans cela, tous me disaient qu'ils n'avaient pas de réconciliation possible. Écoutons par exemple Nelson do Nascimento qui a perdu son papa à l'âge de 12 ans.
O que aconteceu foi uma coisa absolutamente dantesca. Não estamos a falar de 500 pessoas, 1000 pessoas, 2000, 5000, não.
C'est donc un enfant traumatisé qui raconte.
Tout à fait. Il parle de quelque chose d'absolument dantesque. Il dit qu'on ne parle pas de 500 morts, ni de 2000 morts, ni même de 5000 morts. Non, on parle de 30 000 à 80 000 morts pendant deux ans. Donc il veut un travail de recherche de la vérité historique sur ce qui s'est réellement passé. Pour lui, il n'y a pas de réconciliation sans vérité, tout simplement. Et bon, de film sur ce trauma angolais sera en salle donc au Portugal à quelques mois des élections générales en Angola. Mais pour l'instant, il n'y a pas de sortie prévue en Angola. Mais pour ceux qui désireraient le voir, bientôt il devra être sur la plateforme portugaise en ligne de cinéma indépendant filmin.pt.
Karina Branco de la rédaction en langue portugaise de RFI. C'est le dernier week-end obligeant de porter un masque anti-Covid dans de nombreux avions. Dès lundi, l'Union européenne abandonne le port de ce masque dans les aéroports, également donc à bord des aéronefs. C'est le cas pour les compagnies françaises notamment. Pour autant, Lucia Mouzel, de la rédaction brésilienne, la pandémie n'est pas finie. C'est ce que rappellent sans cesse les autorités sanitaires, y compris ici en France. Et le Brésil, par exemple, enregistre une flambée des cas, une hausse de 30%.
Oui, on ne voulait plus entendre parler de ça, mais c'est vrai. Et nous avons tous un peu marre d'en parler et profiter un peu de ce repli actuel pour oublier un peu la pandémie. Mais la situation ailleurs inspire la prudence. Voyons ce qui se passe en Chine, par exemple. Les États-Unis aussi viennent de franchir la dramatique barrière d'1 million de morts par le coronavirus. Concernant le Brésil, le pays n'a pas échappé à cette tendance de relâchement des règles sanitaires que nous voyons un peu partout en Europe et même ailleurs. Au mois d'avril, les Brésiliens ont même fêté le carnaval, un mode décalé, et tout le monde y est allé sans masque, bien sûr, tout le monde a oublié les gestes barrières. Et du coup, le nombre de cas revient à la hausse, bien que le nombre de morts reste bas, autour de 100 par jour. Mais peu à peu, ce chiffre commence aussi à monter. Alors, dans un pays qui a connu des semaines et des semaines avec plus de 1000 morts quotidiens, voire un record de 4000 morts dans une seule journée, les chiffres actuels, bien sûr, ils sont encourageants, c'est indéniable. Mais on se demande quels sont en réalité les risques d'une replongée dans le chaos pandémique.
Et justement, les scientifiques avertissent que des nouveaux variants peuvent profiter de la situation. Plus le virus circule et plus le risque augmente.
C'est ça et c'est déjà le cas en Afrique du Sud où des sous-variants d'Omicron appelés BA4 et BA5 poussent le pays vers une cinquième vague de contamination. Alors je vous rappelle que deux des variants les plus contagieux que le monde a connus, dont Omicron, sont apparus en premier en Afrique du Sud justement et au Brésil. Donc le passé nous invite à la plus grande attention. Ici en France, on se demande si la sixième vague causée par un de ces nouveaux variants ne va pas nous embêter à nouveau dès l'automne. C'est le taux de vaccination en fait qui pourra changer la donne. À titre de comparaison, à peine 30% des Sud-Africains sont complètement vaccinés contre le Covid. C'est très bas si l'on compare à la France où ces chiffres montent à 70%. Et pour reprendre la situation au Brésil, notre correspondante Raquel Miul a interviewé 3 experts brésiliens sur la situation actuelle. Écoutons ce que nous dit cet épidémiologiste Mauro Sanchez de l'Université de Brasilia.
O Brasil, ele tem uma cobertura vacinal satisfatória, apesar de deixar um pouco a desejar em relação à cobertura da dose de reforço.
Il explique le taux de vaccination au Brésil. Hein.
Oui, qui est très importante, de 77%, même si la performance est moins bonne en ce qui concerne les rappels vaccinaux. Et puisqu'une grande partie de la population a été exposée au variant Omicron, pour le moment, le pays dispose d'un degré d'immunisation satisfaisante. Mais à l'avenir, tout peut changer. C'est ce qu'on ne sait pas encore, c'est à quel point les nouveaux variants pourront être agressifs et non plus à quel point les personnes déjà contaminées par les variants précédents seraient immunisées contre les prochains.
Et ce qui change aussi, c'est l'apparition de nouveaux médicaments efficaces contre le Covid-19. Est-ce que face à ces nouvelles vagues de contagion, eh bien nous sommes mieux préparés à les affronter?
C'est en tout cas ce que croit ce spécialiste brésilien des maladies infectieuses, André Bon. Pour lui, la vaccination et les nouveaux médicaments changent tout par rapport aux vagues précédentes. Spécialement en ce qui concerne la prise en charge des personnes fragiles et à risque. De quoi parle-t-on précisément? C'est l'antiviral Paxlovid, par exemple, fortement recommandé par l'Organisation mondiale de la santé et le seul autorisé par l'Agence européenne des médicaments. Je note qu'au Brésil, l'usage des médicaments anti-Covid est plus généralisé qu'ici en France. Écoutons alors ce spécialiste André Bon.
Nesse momento, além da vacina, a gente tem cada vez mais disponível medicações para
tratamento. Il explique qu'au-delà du vaccin, certains traitements seront rapidement disponibles dans les hôpitaux publics brésiliens. Et avec ceci, le scénario épidémiologique est bien différent de celui d'il y a un an. Mais il insiste sur l'importance du dépistage et notamment le séquençage génétique des contaminations afin de pouvoir contrôler l'apparition de ce nouveau variant. Ce spécialiste pointe le fait qu'avec la généralisation des autotests à la maison, de moins en moins de personnes se font tester par PCR et ce n'est qu'avec un PCR qu'on peut détecter le variant qui a contaminé quelqu'un.
C'était Lucia Mouzel de la rédaction brésilienne de RFI et c'était Accent du Monde. Merci d'avoir été fidèle au rendez-vous.